Radio Galaxy 98.5.
Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse. Et nous allons parler art, nous allons parler histoire, parce que je rencontre aujourd'hui un artiste local de Rieux-Volvestre, Sylvian Mesquia. Sylvian, bonjour.
Bonjour.
Sylvian, l'histoire, pour en arriver là, elle est longue. On a fait beaucoup de chemin, il y a eu beaucoup de choses différentes, qui a construit le personnage, qui a construit la technique à travers le temps. On commence où ? On commence à l'étranger, je crois.
Ben, l'histoire est longue parce que la vie commence à être longue déjà, vu que je rentre dans ma 72e année. L'histoire commence en Algérie, parce que je suis né en Algérie, et ce qu'on appelle les pieds noirs. Et donc je suis rentré en France avec mes parents en 62, à l'âge de 10 ans. Donc c'est quand même... 10 ans, on a le temps d'emmagasiner pas mal d'images.
D'images locales, des souvenirs, des odeurs.
D'images assez traumatisantes, on va dire. Voilà, c'est pas trop. J'ai eu une deuxième période, je suis retourné en Afrique du Nord, mais ça les 10 premières années, c'était pendant ce qu'on appelle les événements d'Algérie, avec beaucoup de sang de part et d'autre. C'est pas le but, c'est pas de dire qui avait raison, qui avait tort. C'est toujours pareil, c'est toujours ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait qui en souffrent le plus. Et donc, mettons les 3 dernières années, on n'allait même plus à l'école, quoi. C'était trop, il y avait trop d'attentats, trop de... Puis on voit des choses, des grenades qui explosent, des gens qui sont morts, des... voilà, donc ça, c'est...
Ça marque un enfant, ça?
Ah, bien sûr. Bien sûr. Plus après le départ d'Algérie, dans la précipitation, quoi. Et puis l'arrivée... en France, pas dans les meilleures conditions.
Pourquoi il est arrivé ici, dans cette région ici ou ailleurs ?
Non, on est d'abord arrivé à Marseille. Marseille, puis un peu une cité à Marseille, une cité à Avignon, une cité à Toulouse. Après, quand je dis cité, c'était cité il y a 50 ans. Maintenant, des cités, on met des arbres, on met une médiathèque, on met une... C'était des immeubles, avec de la terre battue en bas, puis c'est tout, quoi. Voilà, donc ça, c'était pas marrant du tout. Voilà.
Les parents étaient déjà dans le manuel ?
Alors, pas du tout artiste, parce que mon père était menuisier, mon grand-père menuisier.
Donc, destiné à être menuisier, à l'école pour être menuisier, j'imagine ?
Qui, moi ? Non. Non, moi j'étais très... un bon élève, très... J'aimais ça, j'aimais ça, les études. Je faisais latin, grec, allemand, c'est pour dire.
Hein. Plutôt littéraire, donc ?
Ouais, plutôt littéraire, ouais. Pas du tout... Par contre, mon père... Arrivé en France, a tout repris, a recommencé à zéro. Donc, on a construit l'atelier, puis après une petite maison attenante avec la famille, quoi. Et donc, c'est le mercredi quand on avait, je ne sais plus.
Le jeudi à l'époque.
Je ne sais plus. Et les samedis, je donnais la main. Voilà, ça me faisait, mes copains faisaient des booms, des trucs, machin. Moi, je voyais bien, qu'ils s'en sortaient pas, quoi. Ça m'a... C'était bien, voilà, c'était comme ça. Donc j'ai toujours vécu dans un environnement de gens qui travaillent de leurs mains. Par contre, dès que j'ai commencé à être ado, je veux dire 15, 16 ans, 17 ans par là, on était ado beaucoup plus tard à cette époque-là, j'ai commencé à dessiner. Ça m'a pris, je me souviens plus pourquoi. À dessiner, ça m'a pris parce que je m'emmerdais sérieusement en cours. Après, autant j'étais un bon élève, autant à partir de 15 ans, là, ça a commencé à déraper, quoi. Ça m'intéressait plus. Et je me suis mis à dessiner. Pendant tous les cours, je dessinais. Mais je faisais des sortes de trucs très influencés par le surréalisme, très BD. Voilà. Mais c'est toujours pareil. Pour être artiste, il faut déjà, pour émerger, il faut avoir un terreau d'artistes, un père, une mère, un oncle, une tante, un voisin, qui repère un don. Ah, ce petit, il est doué, il peut, en musique, en sport, c'est pareil. Hein. Il est doué, il peut faire une école de beaux-arts, il peut faire une école de musique, Il peut faire un centre de formation de foot. Voilà, il faut vraiment qu'il soit pris en charge.
Et donc là, avec des parents menuisiers, c'était pas forcément facile.
Voilà, c'était pas du tout un milieu artistique. Même pas un livre chez moi. Et j'avais ce côté dessiné, quoi.
Dessiné pour soi ou dessiné pour les autres ?
Pour moi, c'était que pour moi. Voilà. Pour les copains, alors dès qu'on me demandait de faire... je sais pas, un copain qui faisait un petit peu de théâtre au lycée, je marchais comme ça... Non, c'était pour moi. Voilà. Ça a basculé. J'avais une petite amie au lycée de Muret. Son père était maître verrier. Maître verrier, c'est le gars qui fait des vitraux. Connu dans le monde entier, sauf à Toulouse.
Comme beaucoup.
C'est des vitraux, mais dans les plus grandes cathédrales du monde. Et à Toulouse, rien. Même aujourd'hui, il n'y a pas ni musée, ni rien. Henri Guérin. Il s'appelait Henri Guérin. Donc cette copine m'invite un jour chez ses parents, un samedi soir. D'accord, on y va. Je rentre dans la maison et je vois le père, quoi. Alors c'était l'artiste dans toute sa splendeur, le vrai artiste qui sait qu'il y a un artiste. Hein. Voilà.
Sûr de lui, confiant et qui aime le montrer.
Voilà, puis... ouais. Alors, peut-être que je ne me souviens plus exactement. Il avait un travail à finir ou quoi, il me dit, bon, si tu veux voir... mon atelier, et son atelier c'était comme l'atelier de mon père. C'était des établis, des marteaux, des... C'est pas grand un atelier de vitrailliste, parce qu'ils font des panneaux immenses pour la cathédrale, mais tout est découpé.
C'est de la mosaïque.
Voilà, ils ont des cartons sur lesquels tous les morceaux sont dessinés, 1, 2, 3, 4, c'est plus complexe que ça. Et bon, lui travaille par dalles de verre, donc il coupe des morceaux, il les assemble sur son carton, et une fois que le carton est fini, il met dans une petite caisse, et puis il y a un lot de caisses, quoi. Mais l'établi et tout, c'est pas grand-chose, c'est des morceaux de verre avec des marteaux. Et là, c'était comme chez mon père, à part que c'était de l'art.
C'était pas du fonctionnel, c'était de l'art.
C'était de l'art. Le gars, bon, m'a ébloui, quoi. Le lundi, je reviens, j'étais au lycée de Muret, lui, il était à Plaisance du Touche. Il me dit, pas court, je dis, ouais, mais je vais pas y aller. Je vais voir travailler. Le mardi, je reviens. Le mercredi, je reviens, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je veux plus aller au lycée, c'est le premier trimestre de terminale. Je veux faire comme vous, je veux apprendre le vitrail. Voilà. Il me dit, d'accord, mais enfin bon, ça ne s'apprend pas comme ça. Hein. Alors, il y a une école de vitrail prestigieuse, c'est à Saint-Quentin, dans le nord de la France, près de Roubaix. Oh, j'ai dit, Roubaix... En plus, c'était une école privée, quoi.
Il fallait financer.
Ouais, ouais. Je lui dis, par contre, les vitraux, ça se fait dans les abbayes. Donc, dans pas mal d'abbayes, il y a des ateliers de vitrail. Il y a une abbaye que je connais très bien, près de Tarbes, à Tournaille. Si tu veux, on peut voir là. Mais c'est une abbaye. C'est pas une école des beaux-arts avec des filles en mini-jupe et... Si tu veux vraiment apprendre, il faut t'engager pour un an. C'est sérieux. Je dis d'accord. Donc il s'occupe de moi, il m'amène.
Juste deux secondes, vos parents par rapport à ça, quitter l'école à la terminale,
évidemment, ils l'ont mal pris. Bon, je leur ai fait de la peine.
C'est souvent le lot de certains artistes qui sont déjà convaincus, qui ont envie de passer à l'acte.
Oui, ça m'a fait de la peine pour mon père, parce que bon, il aurait bien voulu que je continue à l'aider.
Puis c'est votre voix qui commençait.
Oui, puis après, j'étais quand même un sacré numéro. J'avais les cheveux sur les épaules. J'étais le seul, je ne dis pas muré, j'étais le seul. J'allais à Toulouse, tout le monde me regardait. J'avais les cheveux comme j'oubliais son nom, le chanteur de Led Zeppelin, là, comment il s'appelait, Robert Plant. Ça faisait vraiment très, 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 très spécial.
Yeah.
Et puis j'étais, au point de vue, après j'étais révolté contre la société. Je ne comprenais pas plein de choses. Alors j'écoutais la musique de Sauvage, c'était Led Zeppelin et tout. On n'était pas nombreux à écouter ça. J'achetais les disques. Il y avait un magasin qui s'appelait Musique Action à Toulouse, rue des Lois. Il faisait les disques d'importation. Donc, quand je travaillais avec mon père, il me payait. Voilà. Et j'achetais des disques, je me rappelle, que je payais 60 francs. 60 francs. Alors que je crois que le salaire, c'était 6... je me souviens plus, c'était énorme, quoi. Bon, donc j'étais très fanat de musique progressive, rock et tout, et en même temps très amoureux de la... Pas pourquoi je parlais de ça.
On allait partir dans une abbaye pour apprendre le vitrail.
Voilà, donc on rentre à l'abbaye, et quand on arrive, le père abbé nous dit... Écoutez, le moine qui s'occupe du vitrail vient de faire une crise cardiaque. Là. Et là, il n'y a pas d'atelier. Je veux dire. Et il nous dit, par contre, vous êtes là, nous avons un atelier de céramique à l'abbaye.
C'est pas du tout la même chose.
Essayez pour voir. Et bon, j'étais là, mais c'était un peu une rupture avec ma famille et tout. Là. Je suis resté. Et là, bon, au niveau de la céramique, c'était pas grandiose parce qu'il travaillait pour Lourdes, c'était à côté, il faisait beaucoup de trucs. Pas... Mais c'était un vrai atelier de céramique, c'est-à-dire avec la terre, les cuissons, les décors. Et puis surtout, avec le vitrail, c'était un moine solitaire. Quoi. Là, c'était une petite équipe. On était 6. Et donc, c'était... voilà, tout de suite, ça a été magique. Quoi.
Le tour ouais.
Le tour, le moine Jean-Baptiste, que je fréquente toujours, qui n'est plus moine, qui s'occupait de m'apprendre le tour. Je tournais le soir. Et dans la journée, je faisais le travail habituel.
Donc, un an chez les moines pour apprendre la céramique, apprendre le tour, apprendre la terre.
Surtout le tour. Voilà. Après, c'est une expérience marquante. J'y suis resté parce que j'avais des aptitudes. À la solitude, au recueillement. Et là, une fois que j'y étais, je me suis dit, bon, je vais faire comme eux. Quoi.
Vocation de moine, donc, qui s'installe.
Ah, donc, c'était les matines à 3h du matin, plus après l'office de 5h. C'est extrêmement rythmé, quoi. Par les offices, par les prières, par le... Et donc, je ne suis pas un croyant fanatique. Hein. Mais pour moi, c'était cette discipline, elle me plaisait énormément.
Silence.
Le silence. Ah oui, là, je veux de silence, là. On ne parle pas, c'est évident. Sauf pendant le repas. Le repas se fait en silence et un moine lit pendant le repas. Ça peut être rien de religieux. Hein. C'est un livre qu'il a marqué, le journal. C'est très, très... Tout le monde mange en silence et quelqu'un qui lit. Et après, pendant le travail... Le travail, c'était 3 heures à l'atelier, donc on travaillait en silence, et il y avait une heure où on pouvait échanger. C'est-à-dire, on travaillait autour d'une table, mettons, pour nettoyer les pièces, les poncer, tout. Il y a beaucoup de pièces qu'il faut nettoyer en céramique. Donc on était 6 autour d'une grande table à travailler, et il y avait un thème de discussion, et on parlait là-dessus. Et tout de suite, ça partait très très haut. Très très haut. Parce qu'il fallait voir dans ces moines. Alors, il y avait des gens extrêmement simples. Les moines, il y avait des gens qui... Celui qui n'avait plus de terre dans les familles, hein, le quatrième ou le cinquième, il n'avait plus de terre. Donc, c'était ou l'armée ou le monastère. Hein. Il y avait des simplets. Nous, dans notre équipe, on avait un simplet. Mais qui avait sa vision du monde, quoi. Il y avait deux philosophes, quoi. Il y avait un écrivain, il y avait un menuisier, il y avait très, très, très riche. Et puis, on ne parle pas de la pluie du beau temps. Tout de suite, poum, c'est parti...
Cette approche donc du travail de la terre, du travail de la céramique, ça a provoqué quoi? Ça a créé quoi? Les sensations, les visions, le travail?
Après, c'est un chemin qui s'ouvre, le plus dur. Bon, moi, je suis entouré de pas mal, 5 enfants, donc nous avons 5 enfants. Donc les jeunes, on sait ce que c'est. Et après, moi, j'aime bien, je travaille beaucoup avec des jeunes. Le plus dur, c'est de trouver le premier chemin. Maintenant, il y a tellement de... je vois, c'est pas une critique parce que ils ont pas le choix, quoi. Ça va à droite, ça va à gauche, on fait un truc, on s'arrête au bout de 3 mois, on refait autre chose, ça marche pas. C'est très, 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 très difficile. Mes copains, moi, de lycée ou quoi, eux, ils ont fait des études, boum, ils sont fait ingénieurs, il y avait Airbus, ils ont trouvé leur chemin. Ils se sont plus ou moins épanouis. C'est pas le problème. Trouver son chemin. Moi, à partir de là, c'était mon chemin, c'était la céramique. Et donc, il n'y a plus de questions à se poser. On y allait. Donc, là, j'ai appris surtout le tournage. Et quand j'ai voulu me perfectionner, donc maintenant, il y a beaucoup de centres de formation, de choses comme ça. Potier, il y a 50 ans, parce que c'est 50 ans que j'ai commencé, c'était pas un métier noble. Hein. Les potiers, c'était Cassenodari qui faisait les pots à cassoulet ou...
Ou des pichets à eau.
Voilà. Et donc, au lycée, j'ai fait un trimestre de terminale où on faisait philo. Et on a eu un jeune prof qui venait d'arriver. Et alors lui aussi, sacré personnage, belle gueule, du bagou. Et il a fait son cours sur la peinture. Mmh. Pourquoi ? On était 7 en classe. Un cours sur la peinture. Alors bon, pour parler technique, on va dire... L'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, tout de suite.
Tout de suite, déjà, ça situe le niveau.
Tout de suite, ça calme. Et il venait avec des reproductions de peintures contemporaines. Au début, il avait un peu commencé sur les impressionnistes, les classiques, Cézanne, tout ça. Et puis, très vite, c'est la peinture contemporaine. Ces peintres que maintenant on connaît, comme Soulages. Soulages, c'est le plus connu parce qu'il y a le musée à Rodez. Après, d'autres qui sont... Le grand public ne connaît pas. Peintre américain Roscoe, Manessier, Yves Klein, plein de Pollock, l'américain aussi. Et en même temps, et moi, ça a été une révélation, ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu ça comme une incroyable découverte. Et en même temps, il nous parlait du poète qui allait avec ses peintres. Et alors là aussi, c'est tout le monde ne connaît pas. René Char, Philippe Jacoté, Guillevic, Yves Bonnefoy.
À chaque fois, ce sont quand même des gens qui sont un petit peu, pas en rupture, mais en décalage avec la société.
Les artistes
oui,
que j'ai cités.
Oui.
Un artiste est toujours plus ou moins en décalage quand même. Et même s'il ne cherche pas, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui vit.
Le Pollock, Klein, par exemple, au niveau de la peinture, c'est pas des gens qui étaient ils étaient moins, pas très conventionnels.
Ah, pas du tout. Et en plus, ils se sont suicidés. Hein, je veux dire, bon. On n'est pas toujours obligé de se suicider quand on est un artiste.
Je ne le souhaite pas.
Bon, c'est vrai, c'est déjà... Ces grands artistes ont des parcours hors du commun.
Sylvian Mesquia, merci pour cette première partie de la vie de l'artiste du céramiste Sylvian Mesquia. Et on continuera dans une prochaine émission à raconter la suite de vos aventures. À bientôt, au revoir.
Au revoir et à bientôt.
Allégeance. Dans les rues de la ville... Il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus. Qui au juste l'aima? Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus. Qui au juste l'aima ? Et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas.
Dans les rues de la ville, il y a mon amour, peu importe où il va, dans le temps divisé. N'est plus mon amour, chacun peut lui parler, il ne se souvient plus qui au juste l'aime. Il cherche son pareil dans le vœu des regards, l'espace qu'il parcourt est ma fidélité. dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va, dans le temps divisé, il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler, il ne se souvient plus qui au juste l'aimant et l'éclair de loin. Pour qu'il ne tombe pas.